Vous n'avez pas pu échapper à la déferlante de cheveux gris, de rides et de crânes dégarnis sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Un coup de vieux général permis par le tube de l'été numérique. FaceApp, c'est cette application mobile qui, à partir d'un simple selfie, vous permet de savoir à quoi vous ressemblerez dans 50 ans et qui a occupé anonymes et célébrités dans la joie et le détachement d'un mois de juillet à peine perturbé par les mises en garde des associations de défense des droits des utilisateurs d'Internet et même par le Parti démocrate américain quand ils ont tenté, en vain, de siffler la fin de la récré. En consultant simplement les conditions d'utilisation, on comprend très vite que télécharger son selfie pour ricaner 2 minutes, c'est céder à l'entreprise un accès irrévocable et perpétuel aux photos concernées et prendre donc le risque de retrouver sa trombine en 4x3 sur une affiche vantant les mérites d'un monte-escalier par exemple ou encore imprimé sur le tract d'un parti politique. Ces avertissements n'ont pas empêché FaceApp de se hisser en tête des applications les plus téléchargées et c'est une insouciance qui interroge pourquoi, alors que 9 Français sur 10 se disent inquiets de la protection de leurs données personnelles, continue-t-on à donner des petits bouts de nous-mêmes sans se faire de cheveux blancs? Et parce qu'on n'est pas une contradiction près, on attend vos avis et vos réactions sur Twitter. Sommes-nous des fichiers volontaires? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et avec moi pour en débattre en direct, j'accueille Aloïs Brunel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes le fondateur de Diplomatique, c'est une plateforme de reconnaissance visuelle qui se définit comme le Shazam de l'image. En français et en 2 mots, ça veut dire quoi ?
Ce que fait Diplomatique, c'est simple, c'est qu'on édite et qu'on commercialise un logiciel à destination des entreprises qui va leur permettre d'automatiser des tâches visuelles. Donc par tâches visuelles, ça peut être toutes sortes de choses, par exemple de l'encaissement dans les restaurants d'entreprise. Donc vous allez à votre cantine, vous passez votre plateau repas en dessous d'une caméra, ça détecte entrée, plat, dessert, Yoplait framboise et puis ça vous encaisse. Ça peut être détecter des défauts dans des canalisations d'eau potable, ça peut être des pH sans barrière. Voilà, donc c'est toutes sortes de choses.
C'est plus clair comme ça, effectivement. Arthur Messot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le juriste de l'association La Quadrature du Net, association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Je vais vous demander votre avis tout à l'heure sur FaceApp. Ouais. À vos côtés, Edouard Filias, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez co-publié un manuel de survie sur Internet aux éditions Ellipse et vous êtes également vice-président du think tank Génération Libre, qui est à l'origine d'une proposition très controversée. On va en parler évidemment tout à l'heure, mais j'ai une première question pour bien comprendre. Les données personnelles, c'est ce qu'on sème avec les tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs. Mais est-ce que ça concerne tout le monde ? Ma mère, 68 ans, pas de compte Facebook, pas de monde connecté. Est-ce qu'elle laisse une empreinte numérique, Arthur Messot ?
Alors, si vous avez déjà mis une image, une photo de votre mère, de votre grand-mère, si vous avez déjà parlé d'elle, si vous avez des relations par téléphone, par SMS, par mail, ben oui,
elle a une existence numérique.
Elle peut même avoir un compte fantôme, ce qu'on peut appeler sur Facebook un compte fantôme, des gens qui ne sont pas inscrits sur Facebook, mais qui sont quand même connus de Facebook, notamment par les traceurs qu'on peut retrouver sur les sites de presse, des traceurs qui ont été posés là volontairement par Le Monde ou Figaro, qui permettent à Facebook de savoir qui consulte quand, quel article. Et ça, votre grand-mère, pour peu qu'elle passe sur son ordinateur, sur un site du Monde, aura un compte.
Ça suffit à lui créer une identité. Édouard Filias, pourquoi ces données sont si précieuses, à la fois pour les entreprises et aussi pour nous? Pourquoi est-ce que c'est un sujet si actuel et important?
Pour faire court, parce qu'il y a beaucoup de façons de répondre, mais pour faire court, ces données nourrissent les algorithmes qui permettent de cibler d'une part la communication publicitaire, ce à quoi elles servent principalement aujourd'hui, c'est le cœur de l'affaire Cambridge Analytica, mais aussi plus profondément, elles permettent de comprendre nos comportements, donc de les anticiper, donc de les suggérer. Et les algorithmes du futur qui sont en train d'émerger aujourd'hui et qui s'expriment à travers des plateformes comme Alexa ou Amazon ou Facebook que vous citiez, auront une capacité d'anticipation et d'orientation de nos comportements très avancée grâce à ces sommes de données colossales qui sont récupérées sur nous depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies en réalité. Et c'est des données qu'on contrôle d'autant moins qu'on signe toute la journée sans s'en rendre compte des pactes softiens. Alors on appelle ça chez Génération Libre des pactes softiens, ouais. Par référence au pacte cancien, évidemment. En fait, vous signez des contrats sans les lire, tout le temps. Exactement ce que vous disiez sur FaceApp. Mais c'est pas seulement FaceApp, c'est toutes les applications, tous les logiciels, tous les services numériques vous demandent de signer des contrats qui font parfois des dizaines de pages.
Et qu'on ne consulte pas.
Jamais, que vous ne consultez pas. Et dans lesquels vous déléguez des droits extrêmement importants sur vos données, des droits de conservation de ces données, des droits d'utilisation sans votre consultation, des droits d'utilisation pour des fins politiques, parfois. Et ça, évidemment, ça pose un vrai problème fondamental de liberté individuelle. Est-ce que demain, toutes ces données dont nous avons été dépossédés sans notre consentement, en réalité explicite, seront utilisées contre nous pour nous influencer?
Ouais, on va définir ces notions de consentement explicite et éclairé. C'est juste après Macy Gray, Big Brother. C'était Macy Gray, une reprise très très libre de Big Brother de... j'ai oublié, de Stevie Wonder, d'ailleurs, je ne l'ai même pas reconnu. Vous êtes sur France Inter et le débat de midi se penche sur nos données personnelles. Promis, on vous les rend juste après. L'émission est préparée par Caroline Pommès.
Cambridge Analytica n'est pas seulement une entreprise de collecte des données. Elle ne se contente pas de mettre en place des algorithmes. Non, il s'agit bien d'une véritable machine de propagande. Je devais trouver un moyen de récolter des données. Alors je suis allé voir des professeurs de l'université de Cambridge pour avoir leur avis. Le scientifique Alexander Kogan nous a proposé une application Facebook qui avait l'autorisation de récolter non seulement les données de la personne qui utilisait l'appli en question, mais qui avait aussi le pouvoir de s'introduire dans le cercle d'amis Facebook de la personne et d'en collecter également les données. On a récolté les mises à jour de statut, les likes et même parfois les messages privés. On ne ciblait pas seulement les gens en tant qu'électeurs, on les ciblait pour leur personnalité. L'avantage, c'est qu'il nous suffisait de toucher seulement quelques centaines de milliers de personnes pour réussir à construire le profil psychologique de tous les électeurs américains.
Et les gens ne savaient pas que leurs données étaient collectées.
Non.
Et à aucun moment, vous ne vous êtes dit qu'il s'agissait d'informations à caractère privé et que vous les utilisiez sans le consentement des différentes personnes concernées?
Non.
C'était un extrait du documentaire The Great Hack qui est disponible sur Netflix depuis fin juillet. On vient d'entendre le témoignage de Christopher Wiley. C'est lui, entre autres, qui a révélé comment Cambridge Analytica s'était approprié les données de 50 millions d'utilisateurs via Facebook. Arthur Messot, cette affaire Cambridge Analytica, elle montre aussi que les données, elles sont convoitées par les entreprises, certes, mais aussi par les gouvernements ou par les partis politiques.
Tout à fait. Cette affaire, l'affaire Cambridge Analytica, c'est une caricature de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui va exister de plus en plus. Et c'est un très bon révélateur pour réaliser qu'en fait, toute notre discussion qu'on a là, c'est une discussion politique. On n'est pas en train de débattre, défendre le consommateur contre des entreprises qui exploiteraient économiquement. Non, ces questions-là sont politiques. Cambridge Analytica, c'est une affaire dans laquelle des personnes ont été surveillées de façon massive et de façon assez profonde dans leur psychologie pour exercer une influence politique sur des élections-là. Et ça, en fait, c'est ce qui arrive quotidiennement avec la publicité ciblée en ligne. Déjà avec la publicité, de base, la publicité dans le métro, et là, un rôle politique assez important, de pousser à la consommation de voyages, qui vont avoir un coût écologique énorme, pousser à la consommation d'iPhone, qui ont un coût social énorme, quand on sait dans quelles conditions
là, en l'occurrence, il s'agit de ciblage, ces publicités
après,
dont on parlait, elles sont ciblées.
Et ces mêmes pubs, quand elles deviennent ciblées, là, je parlais de la pub dans le métro, mais quand elles deviennent ciblées, elles ont un impact encore plus grand, ça passe à une échelle assez délirante, qui permettent en fait de maintenir la société tout entière dans des conditions politiques favorables à certaines entreprises, qui sont des conditions de consommation de masse, des conditions qui sont complètement contraires aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux, et qu'il faut dénoncer. Cambridge Analytica a été très utile comme ça pour être une caricature de « regardez Trump, ce vilain Trump a été élu à cause des rouages profonds de la publicité ciblée qui en fait nous manipule constamment, toutes et tous, et du coup nous concerne tous d'un point de vue politique. »
Édouard Filias ?
Je pense qu'il faut, c'est un débat qu'il faut prendre, faire attention quand même. Il faut pas sombrer dans le technoscepticisme ou la technophobie. Les données qui sont collectées et la publicité ciblée parfois nous profitent. Elles aident à améliorer.
Qui est nous là ?
Nous, le citoyen, consommateur, individu. Par exemple, la publicité ciblée, ça permet de se débarrasser des publicités qui ne nous intéressent pas, des publicités ennuyantes, dont d'ailleurs on a subi sur Internet pendant des années l'extension de. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire.
Les pop-up.
Pour avoir un contenu plus intéressant pour l'utilisateur. Le vrai problème, et celui d'ailleurs que vous combattez, c'est celui de l'abus du consentement, c'est-à-dire du fait que des données soient utilisées à notre insu en permanence pour nous influencer. Et c'est ça la vraie question, c'est comment est-ce qu'on contrôle le consentement?
Mais cette affaire Cambridge Analytica, est-ce que c'est du vol, est-ce que c'est du pillage, est-ce que c'est du cambriolage, parce que les données elles ont été siphonnées, mais sans consentement explicite, certes.
Facebook leur a donné accès à tout ça. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de bug. C'est Facebook qui leur a donné accès à ça.
Ce que je veux dire, c'est que c'est le modèle économique de ces entreprises.
C'est le modèle économique dans lequel on vit aujourd'hui. Comme Cambridge Analytica, ils sont allés assez fort. Ils sont allés sur le terrain politique. Mais tout ça, c'est normal dans le monde dans lequel on est. C'est malheureusement normal. Il faut dénoncer.
Il faut être précis. Je pense que ces données de Cambridge Analytica qui ont été utilisées pour cette opération de propagande sont des données, je crois, antérieures à 2012. Une époque où l'API de Facebook permettait d'accéder à tout et n'importe quoi. Je le sais, puisque à l'époque, j'avais accès à n'importe quoi pour mes clients, ce qui d'ailleurs me choquait en réalité. Depuis, Facebook a quand même énormément restreint l'accès de ces API, de ces données, comme d'ailleurs LinkedIn avant lui. Les API, ce sont les applications qui permettent d'exporter des données vers d'autres applications. Une API ouverte, une API où vous pouvez aller ramasser tout ce qui se dit, tout ce qui se passe sur Facebook, par exemple. Et ça n'est plus le cas maintenant depuis quelques années. Des progrès, une prise de conscience a eu lieu, une prise de conscience d'ailleurs politique, mais c'est loin d'être suffisant.
Arthur Messeau, vous êtes sceptique. Il n'y a pas eu un avant et un après Cambridge Analytica.
Non, pas vraiment. En fait, le droit évolue constamment depuis bien 10 ans de façon assez rigoureuse sur ces sujets-là. Et évidemment que Facebook et beaucoup d'entreprises font semblant de changer ou changent un peu parfois pour de vrai pour éviter que les scandales s'accumulent. Facebook, Google, si vous les mettez ensemble les deux, vous avez un scandale par mois, un scandale tous les 2 mois. Évidemment qu'ils ont peur de ça, d'autant plus quand ces scandales-là ont maintenant des conséquences juridiques qui leur fait de plus en plus peur. Pas encore très peur, mais on y vient et c'est là où l'espoir peut être dans le futur. On a des armes pour leur faire peur et qu'on a déjà commencé à mettre en action. On reviendra en détail sur ça, je pense.
Oui, il y a une avancée majeure, peut-être pas à l'échelle mondiale, mais en tout cas européenne, c'est le RGPD qui renforce le droit des internautes européens, qui met en place plusieurs obligations pour les entreprises. Sur le papier, ça a l'air d'être une révolution, mais il y a un sondage qui dit que 80% des internautes cliquent sur le bouton « tout accepter ». À Louise Brunel, c'est la preuve que les mentalités, les automatismes n'ont pas encore évolué tant que ça ou pas suffisamment ?
Bah, je crois, moi, je parle en tant que internaute moi-même. Je crois que aujourd'hui, on est sensibilisé au fait que nos données personnelles sont utilisées à des fins mercantiles. On sait même pas exactement bien comment elles sont utilisées. Mais je crois que d'une part, on est tous, moi le premier, un peu feignant sur ces choses-là. On a envie d'utiliser ces services. Il y a une partie de paresse. Je pense qu'il y a, d'une part, il y a une partie de paresse. Je pense que on a envie de continuer à utiliser ces services et on se dit bon voilà, je vais tout accepter parce que c'est la 15e fois qu'on me demande est-ce que je veux modifier les paramètres de navigation sur tel ou tel site. Et puis d'un autre côté, il est vrai aussi qu'un certain nombre de sites ont mis en place ces formulaires d'une manière qui est mauvaise dans le sens où elle ne propose pas les bons choix à l'utilisateur. On dit tout accepter, il n'y a pas d'autre bouton qui nous dit ne rien accepter. Ou alors ça devient extrêmement compliqué d'aller chercher dans les paramètres qui vont permettre de désactiver telle ou telle fonctionnalité. Mmh. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème.
Arthur Messeau ?
Alors, non, je ne pense pas que ce soit de la paresse. Je pense que c'est vraiment pas notre faute en tant qu'utilisateur, utilisatrice. On est des victimes de ça. On n'est pas du tout co-auteur. On est juste des victimes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on clique sur tout accepter ? Pourquoi on se fait surveiller comme ça alors qu'en théorie, on devrait avoir un certain contrôle sur ce qui nous arrive ? D'abord, c'est sûr que c'est en théorie. En fait, la plupart des sites internet ou des applications de téléphone que vous visitez, elles violent le droit sans aucun souci. Soit parce qu'elles ne demandent pas votre consentement, elles font ce qu'elles ont envie de faire sans vous le faire, soit votre consentement, elles sont contentes d'un consentement implicite. Donc ça, c'est ce que vous avez, par exemple, sur les sites de presse comme Le Monde ou Figaro. Vous avez un petit bandeau en bas qui dit « si vous continuez à utiliser ce site, vous acceptez toutes nos conditions » et c'est comme ça.
Et qu'est-ce que ça implique de cliquer oui ?
Il n'y a même pas de oui, il n'y a même pas de bouton oui. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de bouton oui. C'est juste en continuant à visiter le site, en cliquant sur un lien, en scrollant, donc en descendant la page, ils considèrent ça que c'est un consentement valable.
C'est acquis, d'accord.
Ça, on reviendra ensuite sur en quoi c'est pas valable. Et le dernier point, c'est ce qu'on retrouve souvent là sur les applications téléphone, c'est au moment d'installer l'application, genre FaceApp, ils vous disent voilà, on va surveiller tout ce que vous faites, utiliser vos images pour ce qu'on veut. Vous acceptez ? Oui, très bien. Si vous refusez, vous ne pouvez pas accéder à l'application. C'est souvent, en fait, c'est vu comme une monnaie. Les données personnelles, notre vie privée, nos libertés fondamentales, dans ce cas-là, sont considérées comme une monnaie par ces entreprises-là qui disent, si vous voulez accéder à notre service, à notre bien, vous devez payer avec une liberté fondamentale. Ça, heureusement, il se trouve que le RGPD, et le droit antérieur d'ailleurs, le droit européen dans son ensemble, condamne cette vision des choses. Les données personnelles ne sont pas une marchandise.
Il y a eu des condamnations sérieuses sociétés, lesquelles ?
En janvier dernier, une première condamnation de la CNIL contre Google, qui traitait surtout l'aspect explicite du consentement. Mais avant, il y avait une condamnation du centre de Timo, il y avait aussi une condamnation de LinkedIn par la CNIL aussi, qui revenait sur cette notion de consentement libre. C'est que notre consentement n'est pas libre, donc n'est pas valide s'il est donné sous la contrainte de ne pas accéder à un service ou à un bien. Donc on a des condamnations de la CNIL, on a une jurisprudence des autorités européennes tout à fait explicite et stable, et cette philosophie est vraiment au cœur du droit européen des données personnelles, que les données personnelles ne sont pas des marchandises, parce qu'une liberté fondamentale, si elle était dans le commerce, elle pouvait être marchandée, mais tous les gens qui ne sont pas très riches iraient la vendre. C'est ce qui se passe sur Facebook. Facebook, on vend notre liberté notre liberté fondamentale pour accéder gratuitement à un service. Et en fait, dans ce monde-là, il n'y a plus que les riches qui peuvent se payer un accès payant à Gmail pour pas que leur mail soit surveillé.
Édouard Filias, le think tank Génération Libre auquel vous appartenez, a proposé dans un rapport très controversé, je le disais en début d'émission, d'instaurer un droit de propriété des données personnelles. Concrètement, ça veut dire que le citoyen peut avoir le droit de vendre ses données ou de les garder. Et ça se monétise, là, pour le coup. C'est ça, c'est la marchandisation des données ?
Il y a trois stratégies pour répondre à la question du consentement, du pacte sauvetien que j'évoquais tout à l'heure, référence donc évidemment à Faust. Et la première, c'est la stratégie, je dirais, collectiviste, qui est de dire, voilà, on crée une agence nationale de protection des données des citoyens, un peu une stratégie dictatoriale, un peu à la russe, voilà, bon, ok, admettons, on considère que c'est une souveraineté numérique de contrôler nos données. Mmh. Ça, évidemment, c'est un système qui nous est profondément étranger, parce que ça reviendrait à donner tous les pouvoirs à l'État. Et c'est un peu d'ailleurs le sens de la lutte que vous menez contre le superfichier TESS et dans laquelle nous sommes solidaires.
Donc Arthur Messot avec la quadrature du net.
Voilà. La deuxième stratégie, c'est celle de la CNIL, c'est de défendre des droits individuels et donc de porter plainte contre les entreprises, les États, quand ils abusent de ces droits au nom de droits bien définis. On voit que c'est une stratégie qui aujourd'hui qui tente de fonctionner, mais qui ne fonctionne en réalité pas vraiment. C'est d'ailleurs ce que vous disiez. Hein. C'est en fait on vide l'océan avec une petite cuillère. Parce que
entreprises ont toujours un coup d'avance.
Mais bien sûr, elles auront un coup d'avance, elles auront de plus en plus un coup d'avance. Et je crois que c'est tellement tentant, cette pierre philosophale de l'intelligence artificielle absolue qui nous contrôle et qui en réalité, on le sait aujourd'hui, que les possibilités de l'IA pour nous contrôler et nous orienter sont immenses. On est au début du croisement entre les neurosciences, des sciences de l'IA, du nudge, qui sont l'étude des comportements.
Bingo.
Et donc,
bingo
point,
des mots à la mode.
La dernière stratégie, c'est celle de la liberté, de la responsabilité individuelle. C'est celle qu'on appelle le droit de patrimonialité des données. C'est-à-dire que chaque individu se voit recevoir une extension de ses droits individuels, de ses libertés individuelles à ses propres données. Votre travail est le fruit de votre propriété, c'est le fruit de vous-même, c'est une extension de vous, c'est reconnu dans la Déclaration des droits, et c'est inaliénable.
Et il en irait de même pour mes données.
Il en irait de même pour vos données. Alors on s'inspire de Jason Lanier là-dessus, qui ne vous est pas étranger, puisque c'est un des papes de la réalité virtuelle et d'Internet, qui dans un papier de référence à Stanford explique Should we treat data as labor? Est-ce qu'on doit considérer les données comme du travail? Et sa réponse est évidemment oui. Alors, l'idée, c'est exactement comme les droits à polluer, par exemple, en matière de gestion des issues environnementaux, c'est de donner des droits à chacun de vendre ou de ne pas vendre ces données. C'est-à-dire que au lieu de signer des contrats, pseudo-contrats qu'en fait personne ne lit, qui sont léonins, donc, de ce fait, eh bien on vous demanderait, est-ce que vous souhaitez ou non commercialiser vos données pour accéder à ce service, mais ce serait une demande qui serait explicitement formalisée par l'application numérique que vous utiliseriez, et vous répondriez oui ou non.
Mais sommes-nous tous égaux quand cette proposition est faite? Il n'y a pas le risque de créer une société à deux vitesses, on aurait seuls les riches qui pourraient se permettre le luxe, offrir le luxe de conserver leurs données, et les plus pauvres qui seraient obligé de les brader.
Bon, déjà, en fait, Facebook nous arnaque déjà en réalité, parce que l'accès à un pseudo-service gratuit en échange de données, échange qui d'ailleurs n'est pas en réalité formalisé, c'est-à-dire que les gens n'en ont pas conscience. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce manuel de survie sur Internet, c'est pour essayer d'instruire chacun des véritables enjeux derrière les applications. Donc les gens n'ont pas conscience, un, de donner leurs données, et deux, en réalité, ils se font avoir, parce que les données qu'ils donnent à Facebook valent beaucoup plus que l'accès gratuit au service.
Oui, mais vous ne répondez pas à ma question.
Alors, quelle est votre question, pardon?
Je vous demandais, est-ce qu'on est tous égaux face à ce que vous proposez?
Non. C'est-à-dire que certaines données valent plus cher que d'autres, évidemment. Des personnes qui ont un très fort pouvoir d'achat et qui sont par exemple obsédées de voitures, mettons de luxe. Évidemment, les données de ces personnes auront beaucoup plus de valeur pour un vendeur de voitures de luxe à un instant T. Mais on est en train de faire des modélisations économétriques de la valeur de ces données moyenne pour chaque Français et par catégorie de population. On fait ça avec l'école d'économie de Toulouse, la Toulouse School of Economics, et on publiera nos résultats en septembre-octobre. C'est plusieurs dizaines d'euros par mois que chaque Français peut recevoir. Non,
en moyenne
pour les Français, plusieurs dizaines d'euros par mois de revenus additionnels en échange de l'utilisation des grands services numériques qui existent aujourd'hui. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un à très fort pouvoir d'achat, ça peut être plus. Si vous, au contraire, vous snobez complètement Internet et que vous êtes un profil réfractaire, évidemment, vous n'en tirez aucun profit. C'est l'idée que vous soyez responsabilisé face à l'utilisation qui est faite de vos données. Et encore une fois, je le répète, si vous souhaitez de ne pas vendre vos données, vous pouvez ne pas le faire. Et ça, c'est effectivement un vrai changement de philosophie. C'est un vrai changement de façon de voir. Mais je voudrais citer Proudhon pour conclure, avant de citer la parole. La propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe. C'est la propriété qui façonne les sociétés. Et nous proposons d'injecter de la propriété là où il n'y en a pas, sur nos données.
Arthur Messot.
Oui, il dit aussi que c'est le vol, la propriété. C'est assez délirant de citer Proudhon. Bon. Bref, là, on voit clairement un modèle de société, vous l'avez bien vu, hein, dans lequel les riches auront encore plus d'argent et les pauvres auront encore moins d'argent.
Non, ils auront plus d'argent aussi.
Ils auront
20 centimes par mois.
La question, c'est aussi sur la liberté, le droit de pouvoir conserver ses données pour soi.
Honnêtement, ce débat, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en parler minant. Il vient apporter des solutions à un problème qui n'existe pas, qui n'invente pas. Enfin, on ne voit pas très bien qu'est-ce que ça essaie de corriger. On voit surtout que ça apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, comme vous l'avez dit. Hein, genre, d'accord, mais est-ce que tout le monde aura le même accès? Est-ce qu'il n'y aura que les riches qui pourront accéder gratuitement aux services sans être surveillés? On a dit, en tout cas, c'est pas l'état du droit. L'état du droit, c'est les données personnelles ne sont pas des marchandises. Évidemment qu'on est impatient de voir que y a beaucoup, enfin, les plus grosses entreprises continuent de violer la loi et ne sont pas sanctionnées ou pas sanctionnées en montant qui serait utile et efficace. Et je comprends cette frustration, mais juste votre solution. La solution de génération libre apporte pas du tout de réponse à ce problème-là. Juste vient rajouter d'autres problèmes qui, de façon intellectuelle, sont intéressants à débattre, mais c'est des problèmes très classiques entre ultra-libéraux et personnes plus attachées aux libertés fondamentales classiques.
Édouard Fulas, et puis je voudrais entendre Louise Brunel après.
Juste un point de philosophie de fond, parce que là on touche le fond. Le Conseil d'État et d'ailleurs l'Europe s'opposent à ce type de législation parce qu'ils considèrent effectivement qu'il y a certaines formes de... notre corps est une propriété inaliénable. Voilà.
Et bien, nous contestons. Et qu'on serait donc dans la marchandisation.
Oui, bien, nous contestons cela.
Qui est un tabou absolu dans nos sociétés encore.
La base d'une société libre, c'est une société où chacun s'appartient et se possède. Par exemple, chacun a le droit de décider si l'État, quand il prélève ses organes à sa mort, devra rémunérer ou pas sa famille. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. L'État prélève les organes sans même demander vaguement l'autorisation à votre famille. Donc, la meilleure forme de résistance à l'absolutisme de l'État et à la toute-puissance de corporations qui ne seraient plus retenues par rien, on pourra parler des GAFA si vous voulez, parce que c'est un débat dans le débat, et c'est d'affirmer que nous nous possédons nous-mêmes. Et si nous possédons nous-mêmes, nous possédons nos données. Et ça, c'est un point de doctrine de fond qui, effectivement, est appelé à évoluer. Et il évoluera sur ce sujet-là, il évoluera sur les sujets bioéthiques aussi.
Mais ça juste que ça répond à aucun problème. On va passer à autre chose.
Et puis on va écouter Louise Brunel aussi.
Juste que on comprend très bien votre logique, juste qu'elle répond à aucun problème pratique. Là, le problème pratique en question, c'est comment on fait pour que Google et Facebook respectent la loi. Ce que vous décrivez, donc la marchandisation des données, ce n'est jamais ce que Facebook et Google font déjà aujourd'hui, de façon implicite, mais ils le font déjà. Donc vous pensez qu'en étant explicite, ça serait plus simple. Bon, nous on pense que la priorité c'est de faire respecter la loi, d'ailleurs que ce soit votre loi de propriété ou la loi actuelle. Et voilà, et enfin, quand vous dites qu'il faut être propriétaire de son corps, ça c'est une pensée qui est assez ancienne, c'est une pensée qu'on a plutôt dépassée en Europe et dans d'autres pays, c'est la pensée dans laquelle on pouvait se mettre en esclavage soi-même pour rembourser une dette, dans laquelle on pouvait mettre en esclavage ses enfants, ses descendants pour rembourser une dette, c'est ce qui a créé une structure dans laquelle l'esclavagisme était assez normal. Là je parle plus d'esclavagisme antique, pas tellement moderne. C'est clairement quelque chose qui est entièrement rejeté par nos philosophies modernes. Vous avez une philosophie qui revient beaucoup dans le passé. Nous, on pense que c'est pas le bon chemin et on continuera d'être en désaccord sur cette idée de propriété de soi qui ne bénéficie qu'aux plus riches.
Aloïs Brunel, votre société, qu'est-ce qu'elle fait des informations, des données qu'elle reçoit? Comment est-ce qu'elle les traite? Où est-ce qu'elle les stocke?
Alors déjà,
c'est des données biométriques, hein?
Ouais, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par la nature même de ce qu'on fait et des applications que font nos clients de nos technologies, on n'est pas voué, on n'a pas vocation à stocker des données personnelles. On n'a pas vocation à stocker des données personnelles, comme le genre, l'âge, des informations sur telle ou telle personne, des identités. Ceci étant dit, nos systèmes qui analysent des images et des vidéos peuvent être amenés à voir à un certain moment des informations biométriques ou des informations personnelles. Donc ça peut être par exemple dans une caméra, on peut voir des personnes et leur visage, on peut éventuellement voir des plaques d'immatriculation. Je parlais tout à l'heure des plateaux repas, il se peut qu'il y ait une carte de crédit ou un badge qui soit posé sur le plateau repas.
Et c'est une somme d'informations donc.
Et tout ça sont des informations qui sont absolument pas utiles pour l'exploitation de nos systèmes, mais qui cela dit peuvent à un moment donné, à un moment ou un autre, se retrouver visualisées par une personne. Et donc nous, ce qui est important de faire là-dedans, c'est de faire en sorte que ces données-là ne soient pas visibles pour des humains.
Concrètement, vous floutez.
Concrètement, en fait, on floute. C'est globalement ce qu'on fait. On va flouter des plaques d'immatriculation, des visages, les personnes entières, les cartes de crédit, pour que ces choses-là ne soient pas visibles à n'importe quel moment de la chaîne d'exploitation de ces images. Et en fait, c'est même plus fort que ça. C'est-à-dire que ça, c'est dans la vie des produits que l'on vend aux entreprises. Mais en fait, ça crée même des opportunités pour nous, puisque des entreprises viennent nous voir uniquement pour faire de l'anonymisation, pour se conformer.
Donc en fait, le RGPD, pour vous, ça a été une aubaine.
En partie, c'est des opportunités. C'est aussi des contraintes, mais c'est aussi des opportunités parce que les entreprises cherchent à se conformer au RGPD et donc à anonymiser leurs données. Et pour ça, l'intelligence artificielle, en fait, paradoxalement, peut être utile puisqu'elle va détecter automatiquement tous ces objets et toutes ces données biométriques pour ensuite les flouter.
On va continuer cette conversation juste après Renan Luce. On s'habitue à tout.
S'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, amoureux à gare sans remettre au vaudou. Sans remettre au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout, on s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux, on s'habitue à tout. Pour l'amour qui part, les amoureux à gare, s'en remettre au vaudou, s'en remettre au vaudou.
C'était Renan Luce à la programmation musicale Thierry Dupin.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter.
On s'intéresse donc à la protection de nos données personnelles. Je voudrais transmettre une question très concrète d'un auditeur, parce qu'il faut rester concret. C'est Marie qui nous demande si le fait d'opter pour la navigation privée suffit à la protéger. Arthur Messot.
Alors non, c'est un bon début. Hein. Toutes ces petites astuces-là, comme ça, elles sont bien à faire. Installer des extensions pour... votre navigateur, par exemple, U Origin, qui est très bien. Donc ça, c'est des bonnes choses à faire. Navigation privée, c'est plus pour
se protéger des autres personnes qui utilisent l'ordinateur. Par exemple, si son mari veut l'espionner, mais la navigation privée, ça la défend bien de ça. Bon, après, les solutions, on va pas se mentir, les solutions contre des géants comme Facebook ou Google ou d'autres entreprises plus cachées, ces solutions-là ne viendront pas de notre défense individuelle. Il faut se défendre collectivement, par la loi, par la CNIL, par des actions de groupe. Tout seul, malheureusement, ces géants sont trop puissants techniquement pour qu'on puisse se défendre.
Parce qu'on parle que de Google et de Facebook tout à l'heure, c'est effectivement quelque chose qui est la responsabilité uniquement de ces grands GAFAM ou c'est quelque chose de plus global ?
Non, c'est complètement généralisé. D'abord, Google et Facebook, ils vendent un service à des clients qui sont extrêmement nombreux, qui sont aussi fautifs. Et les clients, ça va être tous les sites internet, de tous les sites de presse qui relaient, enfin qui utilisent leurs traceurs et leurs outils d'espionnage. Ça va être toutes les marques, toutes les grandes marques de luxe, de voitures, de voyages qui font appel au service de la publicité ciblée pour nous manipuler.
Alors c'est tentaculaire, Facebook.
Non, c'est pas Facebook qui est tentaculaire, c'est que cette question-là de surveillance économique de toute la population à des fins de manipulation économique concerne presque toutes les grosses boîtes, celles qui vendent, celles qui produisent, celles qui embauchent, que ce soit en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Aujourd'hui, quand un grand groupe, je sais pas, comme Auchan, Monoprix, qui fait de la pub sur Facebook, ou même de la pub ailleurs que Facebook, en utilisant les outils de Facebook, est complice de ce dévoiement de la société vers une logique surveillance généralisée.
Édouard Filias.
Bon, d'abord, je tiens à dire que la Quadrature du Net fait un travail remarquable. C'est d'ailleurs un donateur et un adhérent historique de ce mouvement. On a une divergence sur cette question, mais le travail est remarquable et utile. Je crois à la responsabilité individuelle. Le mot de passe le plus fréquent en France, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, c'est I love you. Ensuite, c'est le prénom des enfants.
Le nom du chat. Mais
attendez, attends. On va dire qu'on va poursuivre devant la CEDH Facebook et on n'est pas capable de se mettre à un mot de passe avec une majuscule et une minuscule. Donc, il y a un problème quand même de responsabilité.
Comment vous l'expliquez, ça?
Mais je pense qu'il y a un décalage. Oui, je pense qu'il y a un décalage entre le débat qu'on a aujourd'hui et la perception, l'acuité de la perception du caractère potentiellement dramatique que ces données manipulées peuvent avoir contre nous. Donc on est comme en fait dans les prémices du débat écologique. On est dans les années 60-70, on se rend compte qu'il va y avoir un sujet mais on n'en a pas en fait totalement conscience. Et ce qui se traduit des comportements profondément irresponsables. Voilà, un enfant par exemple ne doit pas être seul sur internet avant 12 ans. On ne met pas une console de jeu dans les mains d'un enfant avant 6 ans.
Qui dit ça? Serge Tisseron, qui a établi ces règles?
Serge Tisseron, qui est un sociologue et un psychologue, et qui a écrit là-dessus cette fameuse règle des 3-6-9-12.
Pas d'écran avant.
Qui est quand même une règle de bon sens. Mais combien d'enfants traînent devant Internet? Par ailleurs, peut-être trop tôt alors, Arthur, peut-être trop tôt. Il y a des photos des enfants qu'on voit sur Internet qui sont laissées par les familles. C'est juste inadmissible.
Ça, c'est le paradoxe. Les parents voudraient sensibiliser leurs enfants à ces problématiques et en même temps ils sont les premiers à leur créer une identité numérique en postant des photos.
Les réseaux sociaux, et là c'est pour le coup ma spécialité professionnelle, la réputation numérique. Quand vous avez une trace numérique, qu'elle soit une trace sur un réseau social, une trace sur Google, etc., elle est gravée sur le Chrome pour l'éternité. On ne se défait jamais d'une information qui est arrivée sur vous. Et donc, il est extrêmement important de sensibiliser les enfants, dès l'école, à l'importance...
Qui le fait ?
Au fait que les réseaux sociaux, c'est la rue. Un parent ne laisse pas ses enfants en place de Clichy à minuit tout seul. Eh bien, on ne laisse pas. Eh bien, aujourd'hui, personne ne le fait. Les hommes politiques sont d'une génération qui ne se sent pas concernés directement. Une nouvelle génération probablement arrive, beaucoup plus sensible à ces sujets de données. Je pense que, alors c'est modestement ce que j'ai essayé de faire avec ce manuel de survie sur Internet, qui en 100 questions essaye de baliser des conseils très concrets, très simples. Par exemple, installer les mises à jour de son système d'exploitation. Vous ne l'avez pas fait, personne ne le fait, c'est rasoir. Alors évidemment, Arthur utilise Linux, donc
c'est bien fait, tout marche très bien.
Mais la plupart des gens sont sur Windows, donc vous mettez à jour votre système d'exploitation. Donc c'est des choses très simples, c'est aussi avoir conscience des menaces. Il y a un vrai business aujourd'hui du trafic de la carte bleue. Sur le Darknet, vous trouvez des numéros de carte bleue autant que vous voulez, vous trouvez des mots de passe. Allez sur le site HIBP, tapez votre adresse mail et vous verrez tous les endroits où vous avez été hacké et où des données ont été leakées sur vous. Voilà, j'ai fait exercice moi-même il y a quelques mois. Des données sur moi ont été volées sur Dailymotion, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc c'est facile.
C'est terrifiant.
Mais oui, c'est pas terrifiant. Ces leaks-là en question, il faut voir dans le détail. C'est pas des choses systématiquement dramatiques. Mais juste, je trouve que la comparaison avec l'écologie est très bonne et c'est là où notre désaccord idéologique réapparaît de façon très claire pour tous les auditeurs et auditrices. En écologie, il y a deux positions. Il y a certaines personnes qui plutôt, comme moi je dis pour Internet, vont défendre des solutions collectives, vont penser que les problèmes qui soient écologiques ou en matière de données personnelles viennent de grands groupes et de grandes entreprises qui, voulant se faire encore plus d'argent, vont
aggraver la situation de la collectivité, du monde entier, et d'autres personnes qui pensent que le problème vient plus de situations individuelles, donc les solutions sont individuelles, il faut prendre des douches courtes, il faut trier ses déchets. C'est pas aux entreprises de trier les déchets, c'est pas aux entreprises de réduire le plastique dans leurs produits. Non, c'est à nous, petits individus, on devient tout d'un coup victime, enfin auteur de la propre situation dont on est en fait victime.
Et ça, c'est faux. On n'a pas une forme de responsabilité aussi.
En matière écologique, je sais pas parce que je suis pas expert sur la question.
Non, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
Bien sûr que si vous plaignez des bouteilles d'eau, on est en studio. Bien sûr que si, vous êtes responsable.
Bon, en fait, en matière de données personnelles, la situation qui s'aggrave, c'est-à-dire des manipulations politiques de plus en plus fréquentes, des fuites de données de plus en plus importantes, nous ne sommes pas responsables de ça. Nous sommes simplement des victimes. Les responsables sont les grands groupes qui bénéficient de ce système. Et par les grands groupes, je veux bien mettre France Radio dedans, donc qui va faire la publicité aussi, qui va utiliser les outils de Facebook, de Google ou d'autres. Évidemment, Facebook et Google, toutes ces personnes-là sont responsables et c'est eux qu'il faut aller chercher et c'est eux qu'il faut aller sanctionner et interdire.
On ne peut pas faire les deux, tordre le bras des grands groupes et modifier nos comportements ?
Si, un peu, mais modifier vos comportements ne vont pas changer grand-chose. Si ça vous fait plaisir, c'est bien. Parfois, protéger ses mots de passe, parfois, ça a des vrais intérêts pratiques, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste en surface, ça va pas changer grand-chose. Vous n'allez pas aller très loin, vous n'allez pas beaucoup vous protéger parce qu'en face, ils sont bien meilleurs que vous. S'ils veulent vous attaquer, vous pourrez éviter d'aller sur Facebook, éviter d'avoir un smartphone. Ce que je fais moi, par exemple, ça change rien au fait qu'ils trouveront un moyen.
Vous n'avez pas de smartphone, de téléphone.
Non, j'ai un téléphone, mais voilà, rien que ça d'avoir un téléphone, c'est s'exposer beaucoup. Et en fait, vous pourrez essayer de jouer au plus malin. Vous ne serez pas les plus malins face à ces entreprises et encore moins face à l'État si on rajoute les problèmes de surveillance d'État. Donc, on viendra après sur ça, j'espère.
Édouard Filias,
tordre le bras de, comme vous dites, de ces grands groupes, il faut se lever tôt le matin. D'une part parce que, alors il y a deux solutions, vous les taxez ou vous les disséquez, vous cassez leur oligopole ou leur monopole et vous les découpez. Mmh. Ce qui a été fait avec Standard Oil à une autre époque. Le problème c'est qu'aucune de ces deux stratégies ne fonctionne. La première, on voit bien que la taxation, ils augmentent leur prix, donc voilà, c'est réglé. L'affaire Bruno Le Maire l'a illustré récemment. La deuxième, on n'a tout simplement pas les arguments en droit, parce que ce ne sont pas en réalité des entreprises en situation de monopole, elles ont des concurrents. Mmh. Et puis, quelle législation se rappliquerait? Ça serait l'américaine, pas l'européenne, ça ne marche pas.
Et puis si on en décapitule, il y en a peut-être 10 qui repoussent.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, cette histoire n'a pas de fin, parce que de toute façon, si on arrivait, mettons, à couper la tête de Google, ce qui n'est pas du tout, à mon avis, quelque chose de souhaitable, eh bien naîtrait un autre Google aussitôt, et même peut-être trois autres. Bon, après, donc comment faire ? Il y a deux façons de faire. Il y a celle que vous faites, celle qu'on essaie de faire aussi, c'est-à-dire sensibiliser l'opinion publique, mettre, comme ça se passe aujourd'hui sur l'environnement, mettre la pression du consommateur sur la marque, et ça marche. Et je peux vous le dire, les marques sont extrêmement sensibles à cette perception de leur image. On va voir apparaître dans les années qui viennent
ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire
de confidentialité, de conformité des datas qui sont utilisées sur nous. Ça, je crois énormément que le marché va s'amender là-dessus. Et la deuxième stratégie, j'y reviens, c'est celle de donner des responsabilités et des libertés individuelles. Responsabilité aux parents, je l'évoquais, mais aussi des libertés, le droit de patrimonialité. Ça nous semble une façon raisonnable. Et d'ailleurs, on a parlé à Facebook et Google de cette idée de droit de patrimonialité des données. Ils sont tout à fait ouverts à la discussion
évidemment,
là-dessus.
C'est évident.
C'est quelque chose qui, pour eux, peut être un progrès dans leur façon à eux d'assumer leurs responsabilités.
Aloïse Brunel.
Ouais, je crois qu'il y a aussi un troisième point qui est intéressant, qui n'a pas été évoqué ici pour régler en partie ce problème, c'est qu'il y a une force qui est très importante pour toutes ces grandes entreprises, Facebook, Google, etc. C'est leur force de travail, c'est leurs employés. Eux, ils misent tout là-dessus, ils les bichonnent, ils leur fournissent un environnement de travail qui est excellent. Et on a vu récemment que ces employés étaient de plus en plus sensibilisés à ces problématiques également. Et voilà, des développeurs chez Facebook qui commencent à avoir des regrets, qui se disent en fait, je suis en train de participer à quelque chose.
Des repentis, des renégats.
Des repentis ou des gens à l'intérieur qui travaillent encore chez Facebook ou chez Google et qui se posent des questions. Et je pense que cette force-là, c'est une force de changement au sein de ces entreprises. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité des entreprises, c'est vrai. Il faut qu'elles se posent les questions éthiques qui vont bien. Et je pense que les employés de ces entreprises sont très puissants, en fait. Dans ces entreprises technologiques, ils sont puissants. Et ils peuvent être forts.
Vous savez que la pression, elle peut être mise et plus efficace de l'intérieur.
De l'intérieur, oui, je pense.
Arthur Messot est hyper sceptique.
Encore une fois, c'est des petites solutions pour des problèmes énormes. On va pas juste reposer toutes les histoires de l'humanité, tous nos espoirs. Comment on va pas les faire reposer sur une dizaine de salariés qui auraient une éthique? Non. Ces boîtes-là, c'est des boîtes qui sont là pour faire de l'argent, qui sont extrêmement puissantes, qui ont des monopoles sur plein de secteurs, et sont pas là pour être éthiques, elles ne seront jamais éthiques. Enfin, je pense que personne n'est dupe quand on regarde Mark Zuckerberg et son air extrêmement détaché de tout ce qui peut exister d'humain. Personne n'est dupe sur le fait qu'il n'a aucune éthique, et que ses salariés, s'ils ont une éthique, ils auront juste travaillé pour la concurrence, qui n'aura pas beaucoup plus d'éthique, en fait.
C'est pas vrai, par exemple, chez Google, ils ont réussi à faire abandonner un projet de collaborer avec l'armée américaine.
Mais c'était un projet ignoble. Heureusement qu'ils ont abandonné ça. Les autres projets qui sont un peu moins ignobles, Google
continue
de les faire.
Mais c'est la preuve qu'il y a une certaine puissance des employés au sein de l'entreprise qui sont capables de faire changer les choses.
C'est la preuve que les gens qui veulent du mal pour la société ont un minimum de décence, un tout petit peu.
Édouard Villas voulait réagir.
Je trouve que c'est un très très bon argument qui est le vôtre à Louis. Il y a un livre d'un prof de gestion suédois qui s'appelle Nordstrom, dont le titre est « Talent make capital dance ». Le talent domine le capital. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de capital dans notre société. Il n'y a jamais eu autant d'argent, pour faire simple.
Et de pauvres.
Et aussi peu de, de moins en moins de pauvres. Et il n'y a jamais eu aussi peu de talent. C'est-à-dire que le talent, c'est la pierre philosophale, c'est le Graal. Aux États-Unis, un développeur débutant gagne 150 000 euros par an, à 25 ans. Donc ce que vous dites, c'est-à-dire que l'importance d'embarquer les gens dans des projets qui ont du sens, dans des projets qui sont respectueux, est vitale pour des groupes dont les quelques milliers de salariés, pas les dizaines, ont une influence effectivement décisive sur le cours des choses. Et donc je crois que d'ailleurs que c'est un mouvement qui dépasse la tech, c'est un mouvement général du capitalisme sur comment attirer les talents, comment faire avancer son entreprise en démontrant une implication, un sens, une utilité. Utilité que par ailleurs l'État a un peu renoncé à exercer dans nos sociétés. Donc je crois profondément que votre remarque est juste, c'est une force de pression positive, ça n'est pas la seule, mais c'en est une.
Bon, après, pour revenir peut-être sur les solutions un peu plus réalistes, donc là le dilemme que vous posez entre faut-il démanteler Google en plusieurs petites entreprises ou faut-il le taxer ? Bon, mais c'est un faux dilemme parce qu'il existe évidemment plein d'autres solutions beaucoup plus classiques.
Lesquelles ?
Mais comment on fait pour interdire par exemple un réseau de traite d'êtres humains ? Il existe des réseaux de traite d'êtres humains qui achètent des humains pour les revendre. C'est quelque chose que légalement et moralement est
fermement. Tu peux pas comparer ça à Google.
On peut comparer en fait Google, Facebook aujourd'hui, ces entreprises qui violent le droit de façon quasiment explicite.
Vous les mettez au même niveau que la traite d'êtres humains.
Pourquoi je prenais cet exemple-là, parce que dans les deux cas, on a une atteinte générale à une liberté fondamentale, on a une violation de la loi qui est très claire, qui fait pas débat, et pourtant des commerces qui existent. Bon, comment on fait pour lutter contre les trafiquants de drogue, les pires trafiquants de drogue ou ce genre de trafic-là? On dit pas, on va mettre une taxe plus importante. On dit pas, on va les démanteler en plusieurs petites structures. Non, on les interdit. Juste, en fait, ce que fait Facebook et Google, c'est contraire à la loi.
Mais comment est-ce qu'on interdit Google ou Facebook? Qui décide et comment on l'applique?
Mais la CNIL peut le faire. La CNIL peut sanctionner Google 4 milliards d'euros tous les 6 mois.
La CNIL peut interdire Google.
Non. Alors, un juge peut interdire. Un juge peut dire à Google, vous avez l'interdiction désormais sur le territoire français.
Mais ça me semble encore moins réaliste que le droit de patrimonialité des données, que je trouve réaliste par ailleurs.
Comment on le met en place? Juste pour comprendre clairement comment cette interdiction se mettra en place.
Alors, littéralement, aujourd'hui, la CNIL a sanctionné Google de 50 millions d'euros d'amende, ce qui est une somme très faible par rapport à Google. Mais ce que pourrait faire la CNIL, je vais vous dire concrètement, c'est tous les 6 mois, ils se réunissent, ils prennent un petit papier et ils écrivent, aujourd'hui, vu que Google n'a pas changé son mode de fonctionnement, nous sanctionnons à 4 milliards d'euros par 4 milliards d'euros. Et tous les 6 mois, ils refont ça. C'est vraiment quelque chose sur le papier qui peut arriver. Il n'y a absolument rien de surréaliste, c'est pas du tout la science-fiction. Tout le droit
pourquoi
a été écrit
pour
permettre ça.
Pourquoi c'est pas fait dans ce cas-ci?
Pourquoi c'est pas fait? Parce que c'est des problèmes politiques. Et c'est des problèmes gravement politiques. Si vous regardez aujourd'hui Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique, quand il commente les propositions qu'on fait pour s'en prendre aux géants du net, il dit à l'Assemblée nationale, les propositions de la quadrature du net sont très pertinentes, etc. Mais ça serait un affront beaucoup trop brutal aux États-Unis, et il y aurait des répercussions de la part de Trump sur notre économie.
La menace est réelle, puisque ça a été formulé par le président américain.
On se laisse vider notre économie, on se laisse vider nos libertés fondamentales, on admet complètement qu'il n'y a plus rien à jouer, qu'on a perdu, et on baisse les bras alors qu'on s'est fait chier à avoir un droit qui est bien construit, qui est bien carré pour nous défendre. En fait, non, politiquement, il n'y a aucune ambition. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Alors, au sein de la CNIL, je dis pas que c'est au sein de la CNIL, hein, qu'il n'y a aucune ambition, c'est au sein du gouvernement. Au sein de la CNIL, il y a quand même une ambition plus importante, mais des graves soucis à se faire. Tout à l'heure, j'expliquais que si vous allez sur un site internet, il y avait un petit bandeau cookie qui vous disait, en continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez tout n'importe quoi, vous donnez votre consentement de façon implicite. Donc ça c'est illégal hein, depuis l'entrée en application du RGPD. Ça c'est clairement illégal. Maintenant, qui ne dit mot refuse. Le qui ne dit mot consent, qui était un peu toléré dans le passé, maintenant est fini. C'est qui ne dit mot refuse. Seulement, la CNIL. Même s'il rend des décisions intéressantes contre Google ou autre, là, la CNIL s'est faite lobbyer par le GEST, hein, qui est un syndicat qui réunit des éditeurs de presse et des services de pub. S'est fait lobbyer assez victorieusement apparemment, parce qu'elle vient de décider il y a un mois que pendant encore un an sur Internet, votre consentement n'était plus vraiment, votre consentement explicite n'était pas plus requis. Pendant un an encore, qui ne dit mot consent.
Ils ont fait un an de rab.
Ils ont fait un an de rab, alors que ces sites-là avaient déjà eu 3 ans de rab par le passé, depuis le vote du RGPD. Donc c'est un an en plus dans lequel vous pouvez tranquillement violer la loi, parce qu'après tout, les petits sites français, ils sont intéressants. Alors que même que Google, lui, par contre, il s'est fait sanctionner immédiatement, tant mieux. Donc du coup, on a attaqué la CNIL, demande Conseil d'État en référé.
Ce sera mercredi.
Et on aura une audience mercredi, donc contre la CNIL. On espère que ça remettra un peu du plomb dans la tête de la CNIL, parce que là, ce que je vous ai décrit comme modèle depuis le début, si la CNIL est défaillante, c'est sûr que les espoirs sont un peu plus faibles.
La CNIL que je connais bien, ils sont 60, 70,
une centaine.
Face à Facebook, ça fait pas beaucoup.
Vous rigolez. Et d'ailleurs, ils me disent eux-mêmes, la CNIL, qu'ils n'ont pas du tout les moyens de contrôler ceux qui sont censés contrôler en France. Donc de là, imaginez qu'ils vont aller taxer Google de 4 milliards par mois, ce qui aurait pour effet d'ailleurs que Google arrêterait de mettre ses services à disposition en France.
Mais c'est le but. C'est les services qui violent nos libertés.
La question de base aussi que vous posez, c'est celle de pourquoi est-ce que l'Europe est devenue la colonie numérique des États-Unis? Comment est-ce qu'on a pu, en 20 ans, perdre notre souveraineté, notre autonomie, notre destinée numérique? Et ça, c'est une question qu'il faut poser à nos hommes politiques, qu'il faut poser à notre système d'innovation, de recherche, au lien entre l'université et le business qui est inexistant en France. Moi, la question que je voudrais qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on crée un Google, 2 Google, 10 Google en Europe? Et là, il faut se battre. Il faut prendre OVH plutôt que Amazon, quand
OVH,
on est l'État.
Qui
est une société d'hébergement française. Il y a des solutions politiques, par exemple un investissement massif dans un certain nombre de technologies comme l'intelligence artificielle, où en France on est plutôt leader, et d'ailleurs c'est des sujets qui se pensent à l'échelle européenne et pas française. Donc il y a un vrai programme de reconquête de notre industrie, de notre technologie numérique. On a tous les atouts pour, car on a des ingénieurs d'un excellent niveau, comme
et vous pointez du doigt Aloïs Brunel.
Voilà, on a les moyens de se battre, mais il faut accepter de se battre plutôt que de chercher à réglementer, interdire, taxer, etc. Jouons le jeu de la compétition et devenons... Israël, par exemple, est un leader numérique. On peut imposer là-dessus un certain nombre de succès à nos partenaires et être respecté, du coup.
Aloïs Brunel, un dernier mot ?
Pour ajouter mon petit grain de sel à tout ça, je pense qu'effectivement c'est très important de construire des Google, des Facebook européens, mais d'un autre côté, la régulation, c'est bien. Je pense que le RGPD, ça montre l'exemple au reste du monde, et ça nous positionne l'Europe et nos entreprises aussi en leader sur ces questions, parce que au final, ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis aussi, ils commencent à se dire, en fait, on a peut-être besoin d'un RGPD, nous aussi, on a besoin de mettre des amendes à Facebook de 5 milliards, ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense que quand même la réglementation de temps en temps, c'est une bonne manière de se positionner en leader.
Alors, on approche de la fin de la mission. J'ai encore une dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
La question rituelle du mois d'août, avec quelle personnalité vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, vous aimeriez pouvoir débattre, Édouard Filias?
Moi, j'ai lu cet été Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, je lui demanderai ce qu'il pense de notre époque. À mon avis, il sera à la fois fasciné, parce que c'est l'aventure, la nouveauté. Et en même temps, il se posera la question de l'humanité et de nos libertés, de notre dignité. Et voilà, j'aimerais avoir cette discussion-là avec lui.
Arthur Messot.
Moi, j'aimerais bien... je rêve littéralement parfois dans mon sommeil que je redébat avec mes profs de droit que j'ai beaucoup aimé. Donc, s'ils m'entendent, je serais ravi de redébattre avec eux. Je le fais parfois en public. Qu'appelez-moi.
Aloïs Brunel, même question.
Moi, j'aurais dit Mary Shelley, qui est l'autrice de Frankenstein. Personnellement, je suis très intéressé par tous les mouvements de transhumanisme. Je suis assez fasciné par les avancées médicales, le génie génétique. Je suis aussi un peu horrifié parfois par ce qui se passe, bien sûr, l'intelligence artificielle. Et on peut un peu se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de créer plein de petits monstres de Frankenstein dans plein de domaines? En tout cas, je serais assez intéressé de discuter avec elle, qui a aussi vécu une révolution industrielle, et de voir comment elle voit le monde d'aujourd'hui.
Merci à tous les trois et merci à l'équipe du débat de midi. Lucie Lemarchand était à la réalisation, à la technique, Stéphane Boja et Fabrice Desmas. Demain, on se demandera à quoi ça rime d'être mère.